Les Déracinés, par Barès Maurice, lu par Casting Complet. Chapitre 1er. Le lycée de Nancy. En octobre 1879, à la rentrée, la classe de philosophie du lycée de Nancy fut violemment émue. Le professeur, M. Paul Bouteiller, était nouveau, et son aspect, le son de sa voix, ses paroles dépassaient ce que chacun de ses enfants avait imaginé jamais de plus noble et de plus impérieux. Un bouillonnement étrange agitait leur cerveau, et une rumeur presque insurrectionnelle emplissait leur préau, leur quartier, leur réfectoire et même leur dortoir. Car pour les mépriser, ils comparaient à ce grand homme ses collègues et l'administration. Ce bâtiment d'ordinaire si morne semblait une écurie où l'on a distribué de l'avoine. À des jeunes gens qui jusqu'alors remâchaient des rudiments quelconques, on venait de donner le plus vigoureux des stimulants, des idées de leur époque. Non pas des idées qui aient été belles, neuves et éloquentes dans les collèges avant la Révolution, mais ces mêmes idées qui circulent dans notre société, dans nos coteries, dans la rue, et qui font des héros, des fous, des criminels parmi nos contemporains. Et peut-être, à l'usage, perdront-elles leur puissance sur des âmes diverties par les années. Mais en octobre 1879, voici seulement que naissent ces lents enfants de province. Jusqu'alors, ils n'ont connu ni la vie ni la mort, mais un état où la rêverie sur le moi n'existe pas encore et qui est une mort animée, comme au bras de la nourrice. Pour bien comprendre ce qui se passa dans cette année scolaire 1879-1880, où sortirent de la vie végétative et se formèrent dans une crise quelques-unes des énergies de notre temps, il faut se représenter le lycée, réunion d'enfants favorables, comme tout groupement, aux épidémies morales et soumises, en outre, à une action très définie qui marque jusqu'au cimetière la grande majorité des bacheliers. Le lycéen reçoit de la collectivité où il figure un ensemble de défauts et de qualités, une conception particulière de l'homme idéal. Cet enfant qui plie sa vie selon la discipline et d'après les roulements du tambour, ne connaissant jamais une minute de solitude ni d'affection sans méfiance, ne songe même pas à tenir comme un élément, dans aucune des raisons qui le déterminent à agir, son contentement intime. Il se préoccupe uniquement de donner aux autres une opinion avantageuse de lui. C'est bon, à un jeune garçon élève à la campagne, de sentir vers 17 ans la beauté de la nature et les délicatesses du sens moral. Toujours pressés les uns contre les autres, inquiets sans trêve de sembler ridicules, les lycéens développent monstrueusement, à ce régime et sous le système pédagogique des places, une seule chose, leur vanité. Ils se préparent une capacité d'être humiliés et envieux qu'on ne rencontre dans aucun pays, en même temps qu'ils deviennent capables de tout supporter pour une distinction. La qualité qui fait compensation, c'est le sens de la camaraderie. On dit « chic type » dans leur argot, celui qui possède une supériorité, qu'il versifie ou qu'il ait réussi au concours général, et qui, de plus, est bon camarade. Mais être bon camarade, c'est tout d'abord se refuser à la discipline. Il est difficile de ne point la haïr. Ceux-mêmes qui l'appliquent en rougissent. Le proviseur, le censeur, fort impérieux et glorieux devant les petites classes, éprouve du malaise en face des philosophes et des candidats aux écoles du gouvernement. Les pions, qui au jour de sortie les croisent à la brasserie et dans l'escalier des filles, et qui pressentent déjà les distances de l'avenir, tendent à être, plutôt que des supérieurs, des camarades mécontents du rôle où leur fâcheuse destinée les contraint. Sur toute la France, ces vastes lycées au dehors de casernes et de couvents abritent une collectivité révoltée contre ces lois, une solidarité de serfs qui rusent et luttent plutôt que d'hommes libres qui s'organisent conformément à une règle. Le sentiment de l'honneur n'y apparaît que pour se confondre avec le mépris de la discipline. En outre, ces jeunes gens sont enfoncés dans une extraordinaire ignorance des réalités. Quelle conception auraient-ils de l'humanité ? Ils perdent de vue leurs concitoyens et tout leur cousinage. Ils se déshabituent de trouver chez leur père et mère cette infaillibilité ou même ce secours qui maintiendrait la puissance et l'agrément du lien filial. Les femmes ne sont pas à leurs yeux des êtres d'une vie complète, mais seulement un sexe. En leur présence, ils sont incapables de penser à rien autre qu'à des séductions où excellaient les jeunes Français du siècle dernier et dont leur...
Sample complete. Ready to continue?